Chapitre 4. Les confusions courantes de l'esprit humain. Pourquoi l'esprit fusionne souvent ? Modèle et réalité ? Effets psychologiques et sociaux de cette confusion. Car, pour comprendre le monde, l'être humain utilise des mots, des idées et des modèles. Ces outils sont précieux. Ils permettent de communiquer, d'organiser l'expérience, de décider et d'agir. Mais ces mêmes outils peuvent aussi générer des confusions. Ces confusions ne sont ni des fautes, ni des erreurs graves. Elles font partie du fonctionnement normal de l'esprit humain. L'esprit ne se contente pas de percevoir, il interprète, il anticipe, il simplifie. Et dans ce mouvement, il lui arrive fréquemment de confondre ce qui est pensé avec ce qui est réellement vécu. Après avoir exploré le rôle des mots, puis celui des modèles et des symboles, il devient possible d'observer un phénomène central, l'esprit humain a tendance à fusionner l'expérience vécue avec ses représentations. Cette fusion est à l'origine de nombreuses incompréhensions, tensions et rigidités, autant à l'échelle individuelle que collective. La fusion comme raccourci mental, l'esprit humain est constamment sollicité. Pour fonctionner efficacement, il s'appuie sur des raccourcis mentaux. Les modèles, les concepts et les cadres explicatifs lui offrent ces raccourcis. Avec le temps, ces représentations deviennent familières. Elles s'intègrent si profondément qu'elles ne sont plus perçues comme des constructions, mais comme des évidences. Autrement dit, le modèle cesse d'être vu comme un outil. Il est vécu comme la réalité elle-même. Cette fusion facilite l'action rapide, mais elle réduit la capacité d'observation fine. Confondre ce que l'on pense et ce que l'on voit. Il arrive souvent que l'on prenne une pensée pour un fait. Une idée surgit, elle semble cohérente, puis l'on agit comme si elle était certaine, sans prendre le temps de vérifier. Cela ne signifie pas que la pensée est fausse, mais elle n'est pas encore une réalité observée. Penser quelque chose n'est pas la même chose que le voir réellement. La pensée peut donner une impression de clarté, équivalente à celle de l'expérience directe, mais elle reste une représentation intérieure. Autrement dit, ce qui est clair mentalement n'est pas toujours clair dans l'expérience. Confondre une idée utile avec une idée vraie. Certaines idées fonctionnent bien. Elles aident à agir, à décider, à structurer une situation. Mais une idée utile n'est pas nécessairement vraie dans tous les contextes. Lorsqu'on oublie cette distinction, on peut s'attacher à une idée, la défendre, la protéger, même lorsqu'elle ne correspond plus à la réalité vécue. Une idée peut aider, sans être vraie, tout le temps. Le problème n'est pas l'idée elle-même, mais la rigidité avec laquelle elle est maintenue lorsque les conditions changent. Confondre l'explication et l'expérience. Expliquer une chose donne souvent l'impression de l'avoir comprise. Pourtant, il est possible d'expliquer sans avoir vécu et de vivre sans savoir expliquer. L'explication organise le langage, l'expérience, elle, transforme la perception. Savoir parler d'une chose n'est pas la même chose que la vivre. Lorsque l'on confond les deux, la compréhension devient intellectuelle, sans être incarnée. Autrement dit, la pensée peut savoir, sans que l'être ait rencontré. Confondre la certitude et la compréhension. La certitude est souvent confortable. Elle donne un sentiment de stabilité. La compréhension, au contraire, de ne pas savoir, de rester ouvert de laisser une question sans réponse immédiate. La compréhension est un mouvement. La certitude, lorsqu'elle se fige, en est souvent l'arrêt. Lorsque la certitude prend toute la place, la compréhension cesse de grandir. Les effets psychologiques et relationnels de la confusion. Sur le plan individuel, ces confusions peuvent produire un sentiment de certitude excessive, une résistance aux questions, une difficulté à reconnaître ses propres limites, une confusion entre désaccords et menaces personnelles. Lorsque le modèle est confondu avec la réalité, toute remise en question du modèle est vécue comme une remise en question de soi. Autrement dit, ce n'est plus une idée qui est interrogée, c'est une identité qui se sent attaquée. À l'échelle collective, cette dynamique favorise la polarisation, les conflits inutiles et la perte de nuances. Les désaccords ne portent plus sur l'expérience vécue, mais sur la fidélité à un cadre. Pourquoi ces confusions sont normales? L'esprit humain cherche naturellement des repères stables. Face à l'incertitude, il préfère souvent une explication imparfaite à l'absence d'explication. Il simplifie, il accélère, il se protège. Les confusions ne sont donc pas des fautes morales. Ce sont des raccourcis cognitifs. Comprendre ne consiste pas à éliminer tous les raccourcis, mais à les reconnaître lorsqu'ils apparaissent. Autrement dit, ce qui est vu peut être ajusté, ce qui reste invisible dirige silencieusement le socle de l'humain. On peut appeler socle l'ensemble des repères profonds à partir desquels un être humain pense, ressent et choisit. Ce socle n'est pas toujours conscient. Il se forme à partir de l'histoire personnelle, des habitudes, des peurs, des croyances. Lorsque ce socle est encombré de confusions non questionnées, les choix deviennent automatiques. Lorsqu'il devient plus lisible, un espace s'ouvre pour des choix plus conscients. Clarifier les confusions ne signifie pas purifier l'humain, mais rendre ce socle plus accessible, afin que les décisions ne soient pas dictées uniquement par des automatismes. Le lien entre confusion et choix, lorsqu'une confusion n'est pas vue, les choix qui suivent deviennent mécaniques. Lorsqu'une confusion est reconnue, un espace s'ouvre, un espace pour ajuster, pour attendre ou pour ne pas agir. Voir une confusion ne force pas à agir, mais cela redonne de la liberté. Analyse, compréhension et lâcher prise. On peut analyser sans comprendre, on ne peut comprendre sans être passé par l'analyse, mais il devient nécessaire, à un moment donné, de lâcher la fragmentation. Ne consiste pas à combattre les confusions, mais à les voir pour ce qu'elles sont. Laisser les modèles à leur place et l'expérience ouverte. La confusion autour de la conscience. L'être humain possède une capacité naturelle de présence et de perception intérieure. Pourtant, lorsqu'il parle de conscience, il adopte souvent le même réflexe que dans d'autres domaines. Il cherche à atteindre, à comprendre, à maîtriser. La conscience est alors perçue. Un niveau à franchir, un objectif projeté dans le temps. Ce déplacement crée une confusion subtile, mais profonde. Autrement dit, l'esprit transforme une présence immédiate en un modèle à atteindre. Plus l'esprit cherche à accéder à la conscience, plus il s'en éloigne. Non parce qu'elle disparaît, mais parce que l'effort de recherche introduit une tension, une attente, une volonté de résultat. Cette tension occupe l'espace même où la présence pourrait se manifester. Il devient alors possible d'observer que certains instants de clarté apparaissent précisément lorsque la recherche cesse, dans un moment de silence, dans une attention simple, dans une absence de commentaires intérieurs. Chercher à reproduire ces ouvertures suffit souvent à les refermer. L'esprit tente de transformer une expérience vivante en objet mental, dissolvant ainsi la simplicité de la présence. Clarifier ce point ne consiste pas à proposer une méthode ni à imposer une pratique. Il s'agit simplement de reconnaître un mécanisme, la confusion entre l'effort de compréhension et la nature de l'expérience intérieure. Comprendre cela ne garantit aucune expérience, mais cela retire un obstacle. Et parfois, cela suffit. Pour conclure, clarifier les confusions ne rend pas l'humain parfait, mais cela le rend plus conscient. Voir clairement une confusion est déjà un grand pas. Et parfois, c'est tout ce qui est nécessaire pour que quelque chose se desserre